L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
On retrouve Patrick Carnilutti et son invité Tiphaine Le Gall. Bonjour Patrick.
Bonjour Pierre-Yves, bonjour Tiphaine.
Bonjour.
Tu fais le gars étonné qui passait la radio.
Mais ouais, je passais par là, toc, on me dit tiens, viens donc parler du principe de réalité ou fake.
C'est comme le hasard.
Comme un hasard. Et puis en plus, j'ai plein de trucs à dire sur le principe de réalité ouzbek, ça tombe bien, parce que c'est un roman étonnant, il est aussi étonnant qu'épistolaire d'ailleurs, que ce principe de réalité. Puis il s'agit d'une longue réponse, une missive de 200 pages, excusez du peu, qu'adresse une professeure de français brestoise à la directrice de l'Institut français de Tachkent. Son but, faire revenir la responsable du lycée français sur son refus de lui attribuer le poste disponible dans son établissement en Ouzbékistan. Alors pour vous situer, c'est en Asie centrale, c'est un pays un petit peu légèrement dictatorial, un pays enclavé avec la frontière sud, les sympathiques talibans, où le cours de la femme varie entre le prix d'une brouette sans roue et celui d'un mouton unijambiste. Alors ma première question, c'est pourquoi diable tant d'acharnement à partir en Ouzbékistan avec son compagnon et ses deux enfants ?
Alors je crois que la narratrice répond assez vite à ça en disant que... peu importe finalement ce qu'elle va trouver en Ouzbékistan et toutes les considérations qu'on peut faire sur ce pays, parce que de toute façon, dans le fond, ça n'a aucune importance et que ce qu'elle va chercher en Ouzbékistan n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'elle pourra y trouver. Et que de toute façon, seul compte dans sa motivation à partir les projections qu'elle peut en avoir, qui sont forcément en partie fausses, en grande partie fantasmées. Et moi, en tant qu'auteur, si je me suis intéressée à l'Ouzbékistan, c'est aussi parce que c'est un pays sur lequel on a peu de représentation et qui peut ouvrir des mondes potentiels très divers, où on peut à la fois penser à... certes, donc à cette frontière avec l'Afghanistan au sud, mais c'est aussi un pays qui a été sous domination soviétique jusqu'en 91. Et puis c'est un pays qui est sur la route de la soie, donc avec tout le fantasme orientaliste qu'on peut y appliquer. Donc en fait, c'est un pays qu'on connaît peu et pour lequel on va pouvoir avoir beaucoup on va pouvoir apposer beaucoup de représentations très différentes. Il va pouvoir se couler un petit peu comme un caméléon à ce que l'on veut y chercher. Voilà. Alors, comme elle questionne le réel.
On en fait ce qu'on en veut.
En quelque sorte. C'est un peu comme ça qu'elle le présente, comme ça qu'elle le conçoit. Et comme l'idée, c'est aussi de questionner le principe de réalité et la réalité elle-même, c'est quelque part la fonction de ce pays dans le livre. On en fait ce qu'on veut, ça représente le voyage en lui-même, ça représente le départ. Et en fait, dans le livre, il est assez peu question d'Ouzbékistan, en tout cas...
Très peu.
Pas question de parler de la réalité de l'Ouzbékistan, mais plutôt de ce qu'on peut en rêver.
Ouais, c'est un petit peu un désert des Tartares à l'envers. C'est-à-dire que là, elle investit l'Ouzbékistan, alors que le désert des Tartares, on attend qu'il y ait quelque chose qui vienne de ce désert. Là, elle y va carrément. Et donc, elle explique aussi cette narratrice qui n'a pas de nom. La lettre n'est pas signée. Mais c'est pas une lettre anonyme, je suppose, comme, puisqu'elle est connue. Que c'est en réaction, un petit peu une réaction au système de dictature capitaliste qui existe à l'heure actuelle au niveau de la culture. Et elle veut de l'inconnu, elle veut de l'espace vierge pour écrire une autre histoire en dehors de ça. Et est-ce que quitter une dictature pour une autre, est-ce que c'est vraiment changer de paradigme ?
Alors, donc il y a la dimension, voilà, la réflexion sur le voyage dans le livre, ce que représente le voyage et ce qu'on va chercher dans le voyage où on va à la fois chercher l'inconnu, chercher l'insolite et on va avoir l'impression de sortir de notre routine quotidienne, du monde cloisonné, normé de la vie professionnelle, de la vie familiale. Et en même temps, alors elle emploie l'expression un moment de dictature capitaliste, parce que je parle aussi un peu des chemins classiques du voyage, ce qu'on appelle le tourisme, et comment finalement on cherche toujours des façons d'échapper à ce chemin classique, à cette voie classique du voyage, et on y retombe de toute façon. Et c'est aussi ce qu'il se passe avec sa propre vie, c'est-à-dire qu'on comprend assez vite que finalement, si elle veut partir, c'est qu'elle fuit. Elle fuit sa vie à Brest, elle fuit son histoire, mais on comprend aussi, on se doute aussi, que si elle fuit et qu'elle part loin, mais c'est quand même elle-même qu'elle va retrouver, et avec ces mêmes questions, avec ces mêmes limites, avec ces mêmes entraves.
Avec son même couple.
Avec son même couple, sa même famille, et que tous leurs problèmes peuvent potentiellement juste être déplacés, et même un peu plus visibles, un peu plus criants, dans un environnement inconnu.
Oui, parce que si moi je reçois la lettre, là, je me dis, tiens, c'est bizarre, parce que la rédactrice explique qu'elle a besoin de nager pour réfléchir. Jamais elle réfléchit aussi bien qu'en alignant les longueurs à la piscine. Elle y va tous les jours ou presque. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important. Que pour elle, la mer à Brest, l'océan, au bout de la rue Siam, c'est vraiment la liberté, etc. Et elle veut absolument aller en Ouzbékistan, qui est un pays enclavé, un des rares pays du monde, complètement enclavé, c'est-à-dire qui n'a aucun accès à la mer. Et elle explique, elle le dit même, que l'Ouzbékistan, c'est une évasion. Et là, il y a quand même... Bon, il y a mauvaise langue, dirait, une petite incohérence.
Oui, alors oui, il y a beaucoup d'incohérences, mais... En même temps, c'est, je pense, le propre de l'humain que de chercher à concilier nos incohérences. Et donc, en effet, il y a plusieurs passages où elle parle de la nage, où elle parle de la mer, qui sont assez souvent reliés à la poésie et à l'idée d'ouverture, voilà, que permet l'océan. Et qu'en même temps, en allant dans ce pays sans mer, eh bien, cherche une autre forme de radicalité, en allant vers l'inconnu total. Et l'Ouzbékistan en tant que pays enclavé, comme vous dites, il n'y en a pas beaucoup, et ça a une particularité, et ça a aussi une résonance avec elle, ce qu'elle est, et avec, avec ce qu'elle recherche aussi. C'est-à-dire que elle est elle-même, en quelque sorte, enfermée en elle-même. Il y a la lettre, oui, il n'y a pas de réponse, parce que justement, on est du début à la fin enfermée dans sa tête, et que à la fois on se rend compte qu'elle n'arrive pas à sortir de cette forme d'intériorité. On ne sait pas véritablement quelle est la réalité de ce qu'elle vit. On sait uniquement la réalité de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle croit vivre. Donc il y a une forme d'impossibilité à sortir d'elle-même, et que elle cherche, en fuyant, à coïncider avec ce qu'elle est, et que peut-être qu'elle va le trouver dans ce pays enclavé. Il y a ce paradoxe au cœur du voyage qui est le même au cœur de l'amour. C'est pour ça que j'ai aussi voulu croiser les deux thèmes. On va à la fois chercher à se confronter à l'ailleurs et à l'autre. Et en même temps, on va chercher à se trouver soi-même dans le voyage comme dans l'amour.
Oui. Et est-ce qu'elle n'a pas besoin aussi de remettre un cadre autour de sa cellule familiale parce que tout ça, ça a été en partie détruit, et qu'elle a besoin de tout réenfermer dans une bulle.
Alors oui, c'est ce qu'on comprend aussi assez vite dans le livre, c'est-à-dire que la motivation principale de départ, c'est parce qu'elle vit une crise conjugale, et qu'elle cherche quelque chose pour rassembler, en quelque sorte, rassembler la famille, rassembler le couple. Et c'est vrai que l'Ouzbékistan peut aussi être l'image du pays clos qui va pourvoir... remettre ensemble.
Il y a forcément une partie qui est liée à l'actualité, parce qu'elle est aussi fatiguée un peu de son métier. Et fatiguée de son métier, elle en arrive à dire que ce métier-là, il ne vaut que pour les élèves qui suivent. Parce que pour les autres, Tout est déjà joué d'avance, les sélections sont prévues. À Tashkent, elle aura 7 élèves qui seront de la nomenclatura ouzbek, donc qui de toute façon finiront dans des grandes écoles, parce que s'ils n'ont pas le diplôme, on les achètera. Et puis, il y a un autre aspect, moi, qui m'a fait rire, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la pudibonderie qu'elle trouve chez les élèves, qui vont se choquer pour des tragédies. Je crois que c'est Bérénice. Mmh. Alors, Bérénice, c'est absolument choquant, et qui emploie un langage qui est cru, mais qui est obscène, et ça ne les dérange absolument pas, cette...
C'est une autre contradiction humaine, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours l'écart entre la représentation qu'on peut avoir du monde et la représentation qu'on a de soi-même. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le langage. Alors, elle l'observe auprès de ses élèves. Après, dans le fait qu'elle soit fatiguée de son travail et des élèves à qui elle enseigne, c'est aussi parce que on voit le grand paradoxe où elle est complètement investie par la littérature et elle vit à travers ses lectures. Ça aussi, c'est un grand, voilà, une sorte de filtre par rapport à son rapport au monde. Et en même temps, forcément, c'est la confrontation de l'idéal et de la réalité, à savoir qu'elle l'enseigne à des élèves obtus qui ne comprennent pas le sens profond de la littérature. Alors, c'est aussi une forme un peu caricaturale de l'enseignement. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, le fait de pouvoir recevoir ce qui est dit dans la littérature. À la fois, c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous emplit, qui configure nos existences. Et en même temps, il y a quand même toute une partie de la population qui est très réticente et qui n'est pas du tout inscrite dans cette pensée-là. Après, moi, personnellement, je pense que ça va au-delà. C'est-à-dire que je pense que même les non-lecteurs sont imprégnés de cet univers du roman, du film, et que ça...
De tout, même, parce que Renoir disait que même une œuvre picturale posée à l'envers influera celui qui passe à côté.
Oui, bien sûr. Et qu'on est modelé et façonné par ça, profondément. Oui,
tout à fait. Mais moi, je voyais plutôt, c'est une image qui me venait entre la pudibonderie des élèves et l'obscénité de leur langage. C'est aussi l'invasion de la culture américaine où on retrouve un petit peu ce genre de choses avec la pudibonderie des baptistes, des évangélistes, etc. Et le fait qu'ils élisent des gens comme Trump qui sont absolument obscènes. Et on retrouve ça à tous les niveaux maintenant.
Oui, alors ce serait un peu dans l'autre sens, dans ce cas-là, en l'occurrence. Oui. Mais là, c'est vrai que quelque part, il y a... Alors, à plusieurs moments, je m'intéresse aussi au langage en lui-même et à la façon qu'on a de nommer les choses, et notamment l'acte sexuel qui est quand même autour de beaucoup d'expressions de ces jeunes qui sont, qui, sans même s'en rendre compte, qui utilisent des expressions liées à ça.
Guerrière.
Voilà. Et en fait, ces expressions, elles peuvent être... elles peuvent vraiment salir la chose elle-même. Le langage peut salir la chose et que les mots portent leur propre faisceau de signification qui a, je pense, une vraie influence sur le réel. À un moment, elle s'interroge sur la dimension de certains mots à avoir à impliquer une sympathie plus ou moins grande. Parce qu'il y a qui vont être liés à nos schémas de pensée.
Mon cher Patrick, on va faire une petite pause musicale.
Tout à fait.
Back in USSR pour un petit clin d'œil.
Des Rolling Stones.
Ne dis pas ça. Alors en plus c'est une version. Alors c'est un remix de 2018. Ça va te faire bizarre parce que la batterie elle est pas pareille. Elle est pas toute à gauche. Elle est au centre.
Ah et puis c'est un batteur qui le dit.
Back in USSR des Beatles, ben back in Tashkent, Patrick.
Mais oui, on est toujours avec Tiffen Le Gall et le principe de réalité ouzbek qui est paru, on ne l'a pas dit, à la manufacture des livres. Et bravo, ils ont fait une rentrée littéraire terrible cette année. Alors justement, les mots, il y avait affabulation et affable, niais et naïf. Vous dites attention, il y a des mots comme ça, ils paraissent pas, mais ils sont proches, il y a des assonances, et puis on se rend pas bien compte de ce qu'on dit. Et moi, il y a un mot dans votre livre qui m'a paru très très important, c'est agrégation. C'est-à-dire que la rédactrice s'inscrit, enfin, je ne sais pas comment on fait, on s'inscrit pour le concours d'agrégation. Et paradoxalement, c'est le moment où tout son couple, sa famille, son métier, tout ça, tout va se désagréger. L'agrégation la désagrège.
Ah oui, bah c'est une très belle formule. Merci. Oui, en effet, il y a ce moment un peu de bascule où aussi c'est le moment où elle va vraiment s'enfoncer en quelque sorte dans la littérature et elle va perdre peut-être pied avec le réel, une forme de réalité plus prosaïque. Et elle va être complètement immergée dans ce monde de la littérature qui va à la fois être un appel au voyage, à la liberté, à l'amour aussi. Et elle va chercher à faire coïncider sa vie, peut-être, à ce qu'elle va lire et à toutes ces lectures.
Dont des lectures qui ont trait justement à des voyages en Asie centrale.
Il y a Nicolas Bouvier notamment qui est cité à un moment, qui est un peu l'auteur qui a traversé cette partie du monde, mais dans les années 60, donc aussi avec une sorte de décalage d'époque, mais comme si elle avait plaqué toutes les représentations qu'elle en a eues à travers ses lectures. Sur ce qu'elle s'attend à trouver en partant à Tashkent, alors que évidemment la réalité est très très différente de tout ça. Mais au-delà, c'est aussi la pensée du voyage telle que Nicolas Bouvier la conçoit, c'est-à-dire que c'est un écrivain voyageur qui a réfléchi à cette dialectique, cette ambivalence entre l'idée de se dépouiller, comme vous le disiez tout à l'heure, une mise à nu, quelque chose de l'ordre d'une ascèse, et en même temps la possibilité de se remplir du monde, et qu'il faut faire une sorte de vide pour être capable de recevoir.
Et je ne vais pas vous lâcher comme ça avec le sens des mots, parce que pendant cette agrégation, justement, elle a besoin d'aide, parce que c'est un travail absolument phénoménal de passer l'agrégation. Et elle est aidée par un homme qui s'appelle Ismaël, qui est un poète, qui est quelqu'un qu'elle a connu avant, mais sans plus, voilà. Et tout d'un coup, Ismaël, il prend une importance dans sa vie énorme. Et Ismaël, la signification, c'est « Dieu a entendu ma demande ». Et vous l'avez fait exprès ?
Alors, il m'intéressait évidemment la signification du prénom Ismaël, mais aussi dans les consonances qu'il pouvait y avoir avec l'autre homme qui est nommé dans le roman, qui s'appelle Mathias, qui est son compagnon, où il y a une sorte... C'est des prénoms que j'ai voulu comme en miroir, avec des consonances proches, parce que il y a un petit peu ce... Donc, en effet, il y a une sorte de demande, parce que elle cherche sans doute à vivre une grande passion amoureuse. Et intellectuelle, qui va faire se rencontrer le sentiment et puis la stimulation de l'esprit. Parce que voilà, dans l'agrégation, il y a quand même cette grande dimension aussi de solitude, qu'elle sent qu'elle s'éloigne du monde à mesure qu'elle se plonge dans l'étude, qu'elle n'est plus du tout adaptée au monde qui l'environne. Et finalement, quand elle va rencontrer Ismaël, ça va être quelqu'un qui va correspondre, à la fois se couler dans son univers littéraire et en même temps lui faire vivre le sentiment amoureux, passionnel. Mais il y a aussi ce que j'interroge dans le sentiment amoureux, c'est le passage en quelque sorte, parce qu'elle parle aussi de sa relation avec son compagnon, qui au début a été une vraie belle histoire d'amour, et qui avec l'usure du temps, en quelque sorte, s'est étiolée et affadie. Et c'est comme si elle allait reporter, transposer tout ce qu'elle recherchait, tout ce qu'elle cherchait à vivre. Mais là encore, tout ça est dans sa tête. Tout ce qui a été et toutes ses attentes en matière d'amour sur cet autre homme qui est en quelque sorte à la fois très différent, à la fois l'opposé du premier et en même temps une sorte de miroir.
Parce que Mathias, ça revient à plusieurs fois, Mathias ne l'a pas épousé.
Voilà, oui, alors là aussi, c'est dans les significations des mots. Oui. L'idée d'épouser, l'idée de fusionner, l'idée d'unir, l'idée de quelque chose où, encore une fois, dans l'amour, on va chercher une forme de fusion, de se prolonger dans l'autre. Et en même temps, à travers l'autre, eh bien, c'est soi qu'on cherche. Et elle cherche une redéfinition d'elle-même. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit à un moment, une forme d'appropriation de ce qu'elle est, de ses contours, qu'elle reçoit à travers ce nouvel amour.
Et est-ce que... je me suis posé la question à la fin. À la fin, c'est absolument extraordinaire. Moi, je vous le dis, il y a un twist, mais c'est un truc, ça va vous scotcher. Mais bon, une fois qu'on a passé ça, est-ce que cette lettre-là n'a pas suffi, justement, à la recadrer, à lui permettre de réintégrer sa propre histoire et de se redonner un cadre et de pouvoir repartir et continuer sa vie sans avoir besoin d'aller à Tashkent.
Alors, ça, on ne le sait pas, de la décision. Demande. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait de l'écrire, parce qu'à un moment, elle dit ça aussi, que finalement, la lettre la déborde, qu'elle n'avait pas l'intention d'écrire une si longue lettre, et que l'idée même d'écrire... Et à mon sens, c'est aussi le propre de la littérature, c'est de définir des contours de nos vies. Et c'est aussi pour ça qu'on aime lire. C'est parce qu'on va avoir, on va lire, on va avoir des miroirs en face de soi, finalement. On lit pour se trouver. Et ce que l'on va chercher dans la littérature, ce que l'on va apprécier, c'est le fait de trouver une vie, mais qui a des contours bien dessiné. Nos vies sont des chaos, on a du mal à voir le sens, on a du mal à trouver la cohérence souvent dans nos existences. Et la littérature nous permet de battre des bornes. Et finalement, en racontant son histoire, c'est aussi la faire advenir, la faire exister et entreprendre de la mettre à distance en la façonnant, en en donnant des contours clairs. C'est ce qu'elle s'emploie à faire. Et sans doute que ça va lui permettre peut-être de résoudre son problème autrement qu'en partant à Tashkent.
Oui, peut-être, on espère. Merci, Tiffaine Le Gall. En fait, ce qu'il faut lire dans le principe de réalité ouzbek, déjà parce que c'est extrêmement bien écrit. Deuxièmement, parce qu'à mon avis, c'est aussi un petit peu comme ce que disait Goodman à propos de la Gestalt, c'est des pelures d'oignons. C'est-à-dire que petit à petit, la rédactrice va se débarrasser de toutes les couches qui l'empêchent tout d'un coup de voir, qui la bloquent, qui l'empêchent d'être libre, qui l'enferment dans un système dans lequel elle se sent mal et où elle n'a plus sa place. Et moi, je vous invite surtout à ne pas lâcher ce bouquin. De toute façon, vous ne pourrez pas. Une fois que vous aurez commencé, vous irez jusqu'au bout. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup Tiffaine Le Gall et Patrick Carnelutti de l'émission Des Polars et des Notes. Avant de clore ce LEM, le programme de la prochaine émission, ce sera un LEM hors les murs, puisque nous vous proposons de retrouver Véronique et l'équipe de Radio Évasion en direct du Collège Alain, jeudi midi, pour une nouvelle émission sur la thématique de la transition écologique. Passez un très bon moment à l'écoute de Radio Évasion et à très bientôt.
LEM, l'émission. L'émission. Sur Radio Évasion.